Cette présentation s'intitule Mercedes Núñez Targa, la résistance au silence, écriture d'une vie de résistance. Résistance au silence, car cette femme a, par ses écrits, contribué à briser de nombreux silences, comme nous le verrons, tout au long de la présentation. Des écritures plurielles pour des résistances plurielles qui sont bien le reflet de la complexité de la figure de Mercedes Núñez Targa. Cette présentation comportera quatre moments. Tout d'abord, un résumé rapide du parcours de vie de Mercedes, puis une incursion dans son premier ouvrage, Cárcel de Ventas, où elle témoigne pour donner de la voix de son expérience dans la prison de Ventas à Madrid, puis un focus sur El Careto de los Gozos, un témoignage pour briser le silence, cette fois-ci, qui peut même être vu comme un acte politique. Et enfin, dans un dernier temps, nous nous intéresserons aux rééditions de ses ouvrages, véritable résistance au-delà des propres limites de son existence. Il est très difficile de présenter synthétiquement Mercedes Núñez Targa. Femme, engagée, résistance, autrice, elle est tout cela à la fois. Catalane et galicienne, née en 1911 et membre du Partido Socialista Unido de Catalunya, le PSUC, secrétaire de Pablo Neruda lorsqu'il était consul du Chili à Barcelone au milieu des années 30, c'est d'abord pendant la Seconde République espagnole qu'elle s'engage. Membre actif du Parti communiste pendant la guerre civile, elle est arrêtée, jugée et incarcérée à la prison pour femmes de Las Ventas en 1939. Remise en liberté conditionnelle en 1942, elle décide alors de quitter clandestinement l'Espagne, et c'est en France, dans l'Aude plus précisément, à Carcassonne, qu'elle entre à nouveau en résistance, cette fois-ci contre les forces d'occupation nazies et le régime de Vichy. Elle va être à nouveau arrêtée en mai 1944, cette fois-ci par la Gestapo, à Carcassonne, et elle sera déportée au camp de concentration de Ravensbrück sous le matricule 43-255. Le camp est libéré en avril 1945, elle est rapatriée en France et hospitalisée à son retour en France. Elle participe au procès de René Bach, celui qui l'avait arrêtée, procès qui a lieu en juillet 1945 à Carcassonne. Elle est plusieurs fois décorée pour ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale, et poursuit son engagement politique après-guerre, notamment en écrivant des articles pour la presse clandestine du Parti communiste espagnol en exil en France. En 1967, Mercedes publie à Paris son premier récit intitulé « Cárcel de Ventas » aux éditions de la librairie du Globe, dans lequel elle raconte son emprisonnement à cette même Cárcel de Ventas à la fin de la guerre civile espagnole. C'est également dans les années 1960 qu'elle commence le récit de sa déportation. En 1975, après la mort du général Franco, Mercedes et son mari retournent vivre en Espagne et elle commence alors à témoigner de sa déportation à la radio, à la télévision, mais aussi auprès de publics, notamment de jeunes en Catalogne et en Galice. En 1980, aux Editions Seixentados, est publié en catalan le récit de sa déportation intitulé « El Careto dels Gossos ». En 1983, elle est nommée déléguée de l'amicale de Mauthausen en Galice et consacre les dernières années de sa vie au recensement des Galiciens morts en déportation. Affaiblie par les différentes maladies pulmonaires qu'elle a contractées dans les camps, Mercedes Núñez décède en 1986 à Vigo, à l'âge de 75 ans. Ses témoignages sont ensuite plusieurs fois réédités, notamment par les éditions Renacimiento, en espagnol et en français. Le livre « El valor de la memoria », publié en 2016, regroupe l'ensemble des récits de Mercedes en espagnol. Au-delà de sa biographie, où sont nombreux les actes de résistance, c'est à proprement parler l'œuvre littéraire de Mercedes Núñez qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque ce qu'elle fait, c'est écrire pour résister aux non-dits, écrire pour combattre le silence installé, notamment par la dictature franquiste. Pour Mercedes Núñez, écrire fait partie intégrante de son engagement. Il s'agit d'écrire pour être le porte-parole de celles qui n'ont plus de voix. C'est son parcours de vie qui détermine son parcours d'autrice. C'est ce qu'elle explique au début de Cárcel de Ventas. Católica practicante, nacida en el seno de una familia acomodada, nada parecía predestinarme a seguir el camino que ha sido más tarde el mío. Catholique pratiquante, née dans le sein d'une famille aisée, rien ne paraissait me prédestiner à suivre le chemin qui a plus tard été le mien. La guerre civile représente le premier moment d'inflexion. C'est son premier choix de résistance, celui qui déterminera tous les autres. Elle l'explique simplement. Ya no se podía ser neutral, on ne pouvait plus être neutre. Como tantos miles de jóvenes de mi generación, pasé en unas horas del papel de espectadora pasiva à la participation active al lado de la República. Comme tant d'autres jeunes de ma génération, je suis passée en quelques heures du rôle de spectatrice passive à la participation active aux côtés de la République. C'est donc l'engagement et la résistance qu'elle choisit, deux caractéristiques qui marqueront aussi son œuvre littéraire. Ces engagements l'amèneront à la prison de Las Ventas, l'une des prisons les plus importantes dans le système de répression franquiste, notamment auprès des femmes, comme l'explique l'historien espagnol Fernando Hernández Holgado, spécialiste des prisons pour femmes sous le franquisme, dans Mujeres Encarceladas, la prisión de Ventas de la República al Franquismo. Las Ventas es una de las cárceles de mujeres más importantes que obran en el haber represivo del franquismo, importantes tanto por la población penal que llegó a albergar como por el puesto que ocupó y sigue ocupando en la memoria colectiva de las mujeres que la conocieron y la padecieron. Emprisonnée en 1939, elle arrive à la prison de Ventas en 1940, peu après l'exécution des 13 Rosas, les prisonnières les plus tristement célèbres de cette prison. Mercedes ne coïncidera jamais avec elle, mais consacre toute une partie de son témoignage au récit que les autres détenus lui ont fait sur ces 13 jeunes filles, exécutées pour leur implication dans la cause républicaine, dans une section sobrement intitulée « 13 Rosas ». Une autre des sections de son témoignage, Caridad Cristiana, est pour sa part consacrée à la congrégation religieuse de la Sierras del Buen Pastor, qui gère la prison et dont les agissements sont loin de toute charité chrétienne. Mercedes précise même que c'est cet épisode de sa vie qui lui a fait perdre la foi. Jugée à l'occasion du conseil de guerre 57-634-12-29, le 25 octobre 1940, épisode qu'elle raconte dans « A las Salesas », elle est condamnée à 12 ans de prison pour « Auxilio a la rebelión », mais est remise en liberté conditionnelle le 21 janvier 1942. Lors de sa sortie, l'une de ses co-détenues prononce l'une des phrases qui déclenchera sa volonté de transmettre son expérience de vie, de témoigner pour ceux qui n'ont plus de voix. « Explica lo que has visto aquí, que los de la calle lo sepan. » Explique ce que tu as vu ici, que ceux de la rue le sachent. Elle explique ensuite « Esta frase, pronunciada por una reclusa de Ventas al darme el abrazo de despedida, me ha estado arañando la conciencia como una promesa incumplida. Hasta que, a 20 años de distancia, como he podido, como he sabido, he preñado este relato forzosamente incompleto. » Cette phrase, prononcée par une recluse de Ventas quand elle m'a enlacée pour me dire au revoir, m'écorche la conscience comme une promesse inaccomplie. Jusqu'à ce que, 20 ans plus tard, comme j'ai pu, comme j'ai su, j'ai concocté ce récit forcément incomplet. Cette phrase est donc un élément clé de sa décision d'écrire. D'ailleurs, car celle des Ventas n'est pas à proprement parler une autobiographie, mais davantage un ensemble de témoignages, de récits de toutes les détenues croisées par Mercedes. Jesús Alonso Montero, auteur du prologue de Destinada al Crematorio, membre de la Real Academia Galega et du Parti communiste galicien, explique « Pero hay que decir que la memorialista habla poco, muy poco, de ella misma. Habló de aquella inhumada reclusión y de las historias de algunas reclusas. Todo ello contado desde dentro, por quien, además, se nos reveló como una gran narradora del género memorialístico. » Dans Cárcel de Ventas, Mercedes Núñez s'érige donc comme une figure importante de la transmission de la mémoire républicaine et de la mémoire des prisonnières. Le témoignage de Mercedes Núñez est l'un des premiers sur la prison de Ventas à être publié, en 1967, et l'un des trois témoignages relevés par Fernando Hernández Holgado dans sa thèse. Cette publication a lieu à Paris aux éditions de la librairie du Globe, et Mercedes est alors exilée en France. Cette publication, sous son vrai nom, alors que le régime franquiste est toujours en place, constitue néanmoins un acte de bravoure, de valor, comme le reprendra plus tard en 2016 le titre de l'ouvrage réunissant ces deux témoignages intitulé « El valor de la memoria ». Le prologue de cet ouvrage est réalisé par l'écrivain Marco Sana, lui-même ancien prisonnier politique du franquisme et alors exilé à Paris comme Mercedes. Ce prologue n'a pas été conservé dans la réédition de l'ouvrage et il ne m'a pas été possible de le consulter dans le cadre de mes recherches. Cárcel de Ventas est traduit en galicien en 2005 sous le titre de Cárcel de Ventas. Cette réédition est accompagnée d'un prologue de Carmen Vidal qui s'intitule A tinta vermella de Mercedes Núñez, A tinta vermella, l'encre rouge, faisant allusion à la fois à son engagement politique et à son engagement d'écrivaine. C'est un autre aspect de la résistance au silence de Mercedes Núñez que son rapport à ses langues maternelles, le catalan et le galicien, langues régionales longtemps opprimées sous le franquisme. Aucun ouvrage de Mercedes Núñez n'a d'ailleurs été directement rédigé en galicien. Sa connaissance de cette langue est relativement passée sous silence. Elle n'en fait qu'une fois mention dans El Carreto de los Gossos, lorsqu'elle dit « En bastant de barra, je lui respondis en un italien barreja de castella, catala et gallec, que auria fait tremolar la cendres de Dante. » Mais, après son décès, de nombreuses actions autour de sa mémoire ont été rendues par des institutions galiciennes comme le Partido Comunista Gallego ou le Foro por la Memoria Gallega en 2011 pour le centenaire de sa naissance. Il faut rappeler qu'elle est décédée à Vigo, donc en Galice, et qu'elle a passé les dernières années de sa vie à travailler pour l'amicale de Mauthausen en Galice, à recenser les Galiciens morts en déportation. Nous allons à présent voir que El Carreto de los Gossos est un témoignage pour briser le silence, qui peut même être vu comme un acte politique. Il est pour sa part publié en catalan à Barcelone par Ediciones Seixentados en 1980 avec ce sous-titre évocateur « Una catalana a Ravensbrück ». Rares sont à cette époque les témoignages d'Espagnols anciens déportés dans les camps de concentration nazis. Mais il faut tout de même souligner que ce sont déjà les Ediciones Seixentados qui publient en 1977 « Els catalans als camps nazis », premier ouvrage consacré aux catalans déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, de Montserrat Roig, et encore aujourd'hui considéré comme l'un des ouvrages de référence pour l'historiographie catalane de cette période. Le titre « El carreto dels gossos » fait référence à un épisode de l'enfance de l'autrice, Mercedes. À la Plaça del Pi, à Barcelone, elle avait vu petite passer une charrette en menant des chiens se faire euthanasier au gaz, épisode qu'elle met en relation avec le moment où les déportés sont désignés par les SS pour être envoyés en chambre à gaz. Ensuite emmenée dans les fours crématoires, et c'est donc cet épisode qu'elle associe aux chiens qui sont transportés pour se faire euthanasier au gaz. On retrouve dans le choix de ce titre donc l'allusion à ceux et surtout celles qui n'ont plus de voix. L'utilisation du mot « carreto » est par ailleurs effective dans le contexte des camps de concentration, notamment dans « Niti Boira » de Mercedes Rodoreda, et renvoie, selon Maria Campillo, à un motif des camps nazis. Cette première édition ne comprend aucun prologue, aucune introduction, aucun épilogue qui placerait le témoignage dans un contexte historique particulier. Le témoignage se suffit à lui-même pour rompre le silence imposé dans l'Espagne d'après Franco. Silence décisif dans sa décision de publier ce témoignage, comme l'explique son fils, Pablo Iglesias Núñez, dans le prologue qu'il rédigera en 2005 pour la réédition de El Carreto de los Gossos. À propos du retour de sa mère en Espagne après la mort du général Franco, il écrit: La va impressionar la ley del silencio que imperaba sobre el fet ocurregut a consecuencia de la guerra civil y de la segunda guerra mundial. Mercedes ne semble pas, de fait, avoir été victime de ce qui est nommé par les historiens comme le tabou des déportés, réduit au silence. Javier Sánchez Zapatero le définit dans La representación de la experiencia concentracionaria, un caso de la literatura universal. El tabú de la incomunicación se cierne sobre las tragedias, consistente en el deseo de algunos supervivientes de no volver a recordar los horrores vividos para poder dar así por terminada esta fase de su existencia y afrontar el futuro sin temor ni angustias. C'est sans nul doute cet autre silence, celui-là pas spécifique à l'Espagne, que Mercedes Núñez combat en publiant son ouvrage. El Carreto de los Gossos n'est à nouveau pas envisagé par l'autrice comme une autobiographie, mais bien comme un récit, un témoignage. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas non plus d'un journal qu'elle aurait rédigé au fur et à mesure des événements, mais bien d'un témoignage rédigé a posteriori, comme nous pouvons le constater grâce à certaines phrases de l'ouvrage, comme par exemple la prolepse qu'elle effectue lors du passage sur sa confrontation avec René Bach, qui l'enverra à Ravensbrück, à quel geste de la ma m'enviava à Ravensbrück. L'ensemble du témoignage de Mercedes Núñez est envisagé comme un récit directement adressé au lecteur. Le début de l'ouvrage est évocateur et fonde le pacte autobiographique du récit, mais est aussi une manière pour l'autrice d'ancrer la véracité de ses propos. Elle explique « Y ahora em creereu a mi? Potser no. Pero es veritat y cal escriurla. La veritat, encara que morts aronsin les espaties en escepticisme. Escriure perquè cal dir-ho. Perquè no es tracta de faire obra literaria, sino de dire la veritat. Et maintenant, vous me croirez, moi, peut-être que non. mais c'est la vérité et il faut l'écrire, la vérité. Même si beaucoup hausseront les épaules de scepticisme. J'écrirai parce qu'il faut le dire, parce qu'il ne s'agit pas de faire une œuvre littéraire, mais bien de dire la vérité. Dire la vérité, c'est aussi l'une des clés de voûte du témoignage de Mercedes Núñez. On retrouve également dans ces mots l'importance de parler, l'importance de briser le silence, avec cette tournure inventive « qu'al dir-o ». Il faut le dire, c'est une mission qu'elle a choisi d'accepter. « El careto de los gossos » se présente comme un seul bloc de texte. Il ne comprend pas de chapitre et n'est pas divisé par partie. Il se présente comme un témoignage oral qu'elle aurait pu faire auprès d'un public et auquel elle s'adresse directement à de nombreuses reprises. Par exemple, « Calus que en parli de la tele y del parlanchin » ou encore, après quelques réflexions sur l'URSS et le Parti communiste en ce qui concerne le sort réservé aux déportés de l'URSS, « No seguim, em fa massa mal, voleu ?» On s'arrête là, ça me fait suffisamment de mal, vous voulez bien ? Autant de marques d'oralité pour briser le silence, pour témoigner, pour donner de la voix à ceux qui n'en ont pas. On pourra signaler également ce passage, à propos de l'appel dans le camp. No us udic per fer vos la yastima, us udic per tal que comprengueu que quina ferida profunda, com la marca d'un ferro roent, a deixat l'appel en nosaltres deportats. Tout comme il ne s'agit pas d'une œuvre littéraire, il ne s'agit pas de provoquer la pitié chez les lecteurs. Toutes les marques de dialogue assimilent son récit à un témoignage oral auquel il serait possible de réagir. Mercedes Núñez se sert ainsi d'un procédé narratif qui permet d'authentifier le récit, s'inscrivant ainsi dans la volonté de vérité qu'elle a professée au début de l'ouvrage. Ces passages au présent, dans un récit majoritairement composé au passé, nous permettent également de constater qu'il s'agit d'un récit rétrospectif, écrit avec une volonté de transmission, ce qui s'explique en partie par le contexte sociopolitique de l'Espagne à l'époque. En 1980, 5 ans après la mort de Franco, l'Espagne fait encore face à un déficit d'information et à une nécessité de réécrire l'histoire dont le récit a été capté par le franquisme, particulièrement celle de la Seconde Guerre mondiale. Mercedes Núñez, dans El Carreto de los Gossos, se fait alors porte-parole de nombreuses personnes, ses compagnons de résistance et surtout ses compagnes de déportation. Le prologue de la réédition de 2005, rédigé par son fils, propose une double définition de ce récit. Mercedes vuole apportar un testimoni compromès en un message despullat de fioritures literàries. Es un homenatge a la lluita de tantes dones solidàries per la libertat i contra la intolerància. Mercedes veut apporter un témoignage engagé avec un message dépouillé de toute fioriture littéraire. C'est un hommage à la lutte de tant de femmes solidaires pour la liberté et contre l'intolérance. À la fois témoignage et hommage, l'ouvrage regorge de noms, de personnes, comme si l'autrice avait souhaité redonner de la voix à ceux qui ont perdu la voix et la vie. À un moment clé de l'ouvrage, Mercedes s'adresse directement à une autre personne que le lecteur, ce qui est un cas unique dans le récit. Il s'agit de l'une de ses amies, Lola García Echevarrieta, qui comme elle avait combattu pendant la guerre civile, puis pendant la Seconde Guerre mondiale en France, et est également déportée à Ravensbrück. Lorsque Mercedes raconte son arrivée au camp, puis ses retrouvailles avec son amie Lola, nous pouvons retrouver des phrases rédigées à la deuxième personne du singulier qui lui sont directement adressées. « Tu anaves parlant, Lola, amiga, y me deies tot, absolument tot, amb la franquesa que s'empara en una camarada de lluita a la qual es pot dir la veritat, encara que sigui engarifosa. Tot l'esglai de Ravensbrück acabava de caure com una planxa de plom damunt del meu cap. Ja no parlaré més de tu, Lola. Pocs anys després del retorn, una petita nota a un diari qualsevol deia que tu i el teu home, en Quimet Olaso, havíeu mort asfixiat per gas al vostre pis. » Les lignes qui décrivent la mort de Lola montrent ainsi l'implication émotionnelle de l'autrice dans le destin de son amie et, de la volonté de partager également cette vérité-là avec ses lecteurs, au-delà de la vérité historique et même si la vérité doit lui faire du mal à elle. Mercedes donne des détails sur d'autres de ses connaissances. C'est le cas pour ses compagnons de résistance, citons notamment José Ballester Soler, Pepe Luis Fernández Albert, Ángel Fuentes Vidosa, El Maño, Antonio Medina Vega, Panchín, Natividad Peribáñez Terre, Almagro y Amontegui. Elle développe même certains événements qui ne la concernent pas directement, consacrant même plus de 2 pages à l'évasion d'Amantegui. Il s'agit là forcément de la reproduction du récit d'une tierce personne, puisque les événements racontés sont concomitants à la déportation de Lotkis et elle n'a donc pas pu en être témoin. Grâce aux paroles rapportées au discours direct, il semble même qu'il s'agisse d'Amantegui lui-même. Tot d'un plegat es l'Amantegui qui parla, la porta s'ouvrit y que hi veis. Mercedes Núñez en fait de même avec les 2 Espagnols qu'elle a rencontrés au fort de Romainville, Maria et Constanza, puis avec les 5 autres Espagnols du commando Asag, où elle est envoyée après son arrivée à Ravensbrück, Conchita, Carmeta, Elisa, une autre Mercedes et Marita. Elle décrit parfois le caractère de la personne, parfois ses actions ou ce qui lui est arrivé avant, pendant ou après la guerre. La mention précise de ses noms propres et les détails offerts sont pour l'autrice autant d'éléments qui lui permettent d'affirmer la vérité et la véracité de son récit. Mais c'est également une manière pour elle d'écrire l'histoire de ceux qui ne peuvent pas écrire la leur, comme Lola ou Tere et Panchin, et ainsi écrire leur histoire avec un petit H dans l'histoire avec un grand H. Elle inscrit elle-même son récit dans l'histoire avec un grand H lorsqu'elle rappelle l'évasion du colonel Fabien du fort de Romainville ou celle de la déportée soviétique Timotchenko du camp de Ravensbrück, seule déportée à avoir pu s'évader du camp. Cette facette du témoignage est à envisager sous le prisme de la question du double. Les déportés qui témoignent le font aussi pour ceux qui ne peuvent pas le faire. François Rastier explique à ce propos dans l'article « Témoignage inadmissible » paru dans la revue Littérature en 2010. Primo Levi déclarait témoigner, non pour lui, mais pour comte tiers et pour le comte des engloutis, Isomelsi, nommé ainsi dans un chapitre de son premier livre et dans le titre du dernier. Le témoignage littéraire emprunte donc au genre de la célébration et de la commémoration, comme le tombeau, voire l'épitaphe. Il devient en quelque sorte la sépulture de ceux qui en furent privés. El Careto dels Gossos s'affirme donc comme témoignage historique tout au long du récit. Il revendique également une dimension mémorielle, autant des événements que de certains de leurs acteurs anonymes auxquels l'autrice s'emploie à redonner une identité, celle qu'ils ont perdue. Il s'agit de la mémoire spécifique du témoin. Lorsque El Careto dels Gossos est réédité en 2005, il est accompagné d'un prologue qui, comme je l'ai cité précédemment, par le fils de Mercedes, dont le père, Medardo Iglesias Martin, était également un ancien combattant républicain, interné par la suite à Oran. Pablo Iglesias Núñez soulève un dernier élément capital au moment d'étudier le témoignage de Mercedes Núñez. La Merced va recorrer diverses editoriales, pero no aceptaban en sus escritos porque, según ellos, no tenían interés. Mercedes a contacté diverses maisons d'édition qui n'acceptaient pas ses écrits parce que, selon eux, ils n'avaient pas d'intérêt. Cet énoncé présente tout d'abord un certain dépit, même si il s'agit d'un prologue à une réédition, et que si réédition il y a, c'est parce que la première édition a eu du succès et que donc le récit a suscité un intérêt. Ce manque d'intérêt présumé des maisons d'édition reflète le désintérêt pour la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans l'Espagne d'alors, post-franquiste de la fin des années 70 et du début des années 80. Selon l'historien catalan Jordi Serrano y Blanquer, dans l'Emancipació dels Joves Catalans, El camí que cal recorrer, ce phénomène s'explique par le contexte politique et social du moment. Els dirigents antifranquistes que van participar en el pacte de la transició van acceptar un oblit asimètric, van oblidar definitivament la memòria dels perdedors i dels resistents. Per què? És l'efecte de la por. Pot ser, era massa dur saber notícies de la negra nit, llaurar la tristesa, què era el Careto dels Gossos de Ravensbrück i com era una de les 2 Catalunyes que es va intentar exterminar. Jordi Serrano oppose ainsi explicitement le témoignage de Mercedes Núñez à l'oubli, ce qui souligne la dimension mémorielle de ce témoignage et rejoint la loi du silence contre laquelle elle a, selon son fils, décidé de rédiger puis de faire publier son témoignage. En outre, il est également possible d'entendre l'effet de la peur dont parle Jordi Serrano et les refus de publication de El Careto dels Gossos sous un prisme politique. Il faut rappeler que Mercedes Núñez était membre du Parti communiste espagnol, illégal jusqu'en avril 1977. Cela corrobore le fait que la décision de Ediciones 62 de publier El Careto dels Gossos est peut-être vu comme un choix politique contribuant, selon leurs engagements, à la constitution d'une identité catalane et d'une histoire catalane différente de celle de l'Espagne. La publication de El Careto dels Gossos contre la loi du silence, contre le tabou des survivants de la déportation, en donnant une voix à la mémoire, a donc combattu des silences pluriels. Enfin, les différentes rééditions des ouvrages de Mercedes constituent une véritable résistance au-delà même des limites de sa propre existence. Les témoignages de Mercedes sont en effet plusieurs fois réédités, en catalan en 2005, puis El carrito dels gossos s'est traduit à l'espagnol et publié sous le titre de Destinada al crematorio en 2011 aux éditions Renacimiento de Séville. Cette traduction contribue à l'affirmation de l'identité espagnole de Mercedes, et c'est désormais la version espagnole de son nom, Mercedes, et non plus Mercé, son prénom catalan, qui orne la première de couverture. Le sous-titre qui est donné à cette traduction, De Argelès à Ravensbrück, Las vivencias de una resistente republicana española, est assez étonnant puisque Mercedes ne fait aucune allusion à son passage dans le camp d'Argelès, et les allusions à son parcours dans les forces républicaines sont peu nombreuses dans El carrito de los gossos. Cette volonté peut être éditoriale d'en dire le plus possible sur une thématique qui n'est pas habituelle dans le panorama littéraire espagnol, cherche sans doute à combattre le silence installé pendant des décennies autour des républicains et des déportés espagnols, mais n'est pour autant pas fidèle au témoignage de Mercedes. Le titre choisi est beaucoup plus explicite que le titre d'origine, puisqu'il fait référence au moment où Mercedes avait été désignée pour le transport, c'est-à-dire la chambre à gaz puis le four crématoire du fait de son état de santé, la veille de l'évacuation du camp par les Alliés en avril 1945. Le témoignage est aussi séquencé en plusieurs chapitres, sans doute dans une volonté didactique pour faciliter l'accès au sens des lecteurs. En 2012, les éditions Renacimiento publient « La valeur de la mémoire », traduction au français, de El carrito de los gossos, qui suit la même trame éditoriale que Destinada al crematorio. Le titre français, La valeur de la mémoire, renvoie en effet explicitement au concept de mémoire en relation avec l'histoire tel qu'il a été défini en France à partir des années 80, notamment avec les travaux de l'historien Pierre Nora. Dans l'imaginaire français, le syntagme entier La valeur de la mémoire en rappelle un autre, le devoir de mémoire. Cette formule, intimement liée en France avec la Seconde Guerre mondiale et la déportation, a à voir avec la vérité par opposition au faux témoignage et au négationnisme, vérité assumée par le discours du 16 juillet 1995 du président Jacques Chirac, qui réussit à rassembler France résistante et des justes, France complice de l'occupant, et notion de réparation, selon l'historien Sébastien Ledoux. En 2016, 30 ans après le décès de Mercedes Núñez, ces deux témoignages sont réunis dans un seul ouvrage, à nouveau aux éditions Renacimiento sous le titre de El valor de la memoria, qui n'a toutefois pas les mêmes connotations que le titre français, même s'il en semble une parfaite traduction. On pense notamment au troisième sens proposé par la Real Academia à propos du mot valor, alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase, alors que le sens se rapprochant du premier sens français, n'est que la huitième acception de l'entrée du dictionnaire. Le prologue de cet ouvrage, rédigé par Elvira Lindo, célèbre autrice espagnole, contribue sans doute à affirmer Mercedes comme une actrice de la littérature espagnole, sans doute contre sa volonté première de ne pas faire de fioritures littéraires affirmées dans les témoignages. Cet ouvrage comprend une bibliographie qui reprend les différents articles écrits par Mercedes dans la presse clandestine des années 60, autre facette de son combat perpétuel contre le silence. L'essence de ces témoignages, l'écriture d'une vie de résistance plurielle, et ce combat pour la parole, pour la transmission, pour la mémoire. Pas sa mémoire personnelle, mais bien la mémoire des silenciados, ceux qui ont été réduits au silence. Le témoignage n'est pas une entité autosuffisante, mais s'articule entre le témoin, même après son décès, les historiens et le public récepteur du témoignage. On voit ainsi perdurer la résistance de Mercedes contre le silence au-delà des limites de son existence, grâce aux différentes rééditions de ses ouvrages. Voix contre silence, presse clandestine contre état oppresseur, recherche contre oubli, autant de combats qui finalement résument le chemin de vie de Mercedes. Pour conclure cette intervention, voici quelques vers de Joan Maragall, poète catalan, dont celui qui conclut El carrito de los gossos, extrait du poème Excelsior. Vigila, esperit, vigila, no perdis mai el teu nord, no et deixis dur a la tranquilla agua mansa de Cap Port. Veille, esprit, veille, ne perds jamais ton or, ne te laisse pas emporter dans les eaux calmes d'un quelconque port. Aujourd'hui, alors que la plupart des témoins déportés ont disparu, sachons continuer le combat contre le silence entrepris par Mercedes et par tous les auteurs de témoignages. Ne perdons jamais le nord offert par les témoins pour que jamais les témoignages ne retombent dans le silence qu'ils ont brisé.